Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Lavergne. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Alors à plusieurs reprises dans ce coup de main pour l'emploi, eh bien on a annoncé des journées portes ouvertes au sein de centres de formation, mais ça existe aussi dans un certain nombre d'entreprises et notamment on se rend du côté de Disneyland Paris aujourd'hui.
À vos agendas, chers auditeurs, parce que pour le coup, c'est pas la moindre des portes ouvertes ou des journées métiers comme c'est intitulé, c'est au sein de Disneyland Paris.
Et oui, avec Cécile Balta, DRH, donc du côté de Disneyland Paris, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio pour nous parler de ces journées des métiers de la restauration que vous proposez donc les 13 et 14 février prochains. Ça se tiendra au Dôme du Disney Village, donc à Marne-la-Vallée. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise et quel est le but justement de ces journées que vous organisez.
Oui, alors on a voulu faire écho aux journées des métiers qu'on avait organisées il y a 2 ans, quand on pouvait encore organiser des événements en présentiel comme ça avec des milliers de personnes. On voulait faire connaître tous nos métiers à Disneyland Paris. Cette année, on a voulu refaire 2 jours dédiés à nos métiers, mais avec une particularité, c'est qu'on va se pencher sur la restauration. Donc on veut faire découvrir à nos futurs candidats, mais aussi des personnes qui se posent des questions sur leur avenir, des jeunes et des moins jeunes, peut-être en reconversion, qui auraient envie d'aller vers les métiers de la restauration. Et ben, ce sera 2 jours complètement dédiés à tous nos métiers de la restauration.
Et alors concrètement, comment on va pouvoir les découvrir, tous ces métiers de la restauration au sein de Disneyland Paris?
Alors on aura des stands, donc on a plus d'une quarantaine d'opérationnels, on les appelle les cast members chez nous, qui sont spécialisés, hein, qui ont ces métiers de la restauration. Donc on voulait surtout pas faire un événement de ressources humaines, mais vraiment un métier opérationnel, pour que justement nos opérationnels, nos chefs, nos serveurs, nos managers de restaurants puissent raconter leur métier, leur journée, la façon dont ça se passe à Disneyland Paris, dans un restaurant, dans un hôtel aussi, dans les petits déjeuners, vraiment sur tous les métiers. On aura des démonstrations culinaires aussi, de cocktails, de pâtisseries, et puis on aura des conférences et les personnes pourront rencontrer et discuter avec ces opérationnels.
Avec, j'imagine, Cécile Balta, ce plaisir, effectivement, vous en parliez, d'être enfin débarrassé, en tout cas temporairement, du distanciel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ce face-à-face entre vos salariés et puis peut-être les futurs, ceux qui vont vous rejoindre.
Oui, tout à fait. Alors, on fait très très attention, et là je tiens à rassurer absolument tout le monde, hein, on fera très attention aux distanciations, tout le monde sera masqué, là on respectera évidemment tout, mais oui, enfin on va pouvoir à nouveau accueillir du public au sens large, j'espère, des centaines, voire des milliers de personnes, et on sera là en physique, présentiel, et on est vraiment ravis de le faire 2 ans après notre premier grand événement.
Jérôme Lavergne.
Un commentaire tout d'abord, c'est très précieux ce genre de présentation, parce que Cécile Balta le rappelait à l'instant, c'est pas un événement RH, c'est un événement métier, et il est précieux de pouvoir les présenter, ces métiers, par la bouche de ceux qui les exécutent, ces métiers-là. Précisément, la cible, si on peut parler de cible, c'est pas très élégant, du public potentiel, elle est large, elle est ouverte également à des gens qui n'auraient pas, et moi j'invite les auditeurs qui n'auraient pas songé au métier de la restauration à y aller, parce qu'il n'y a rien à perdre. C'est les 13 et 14 février, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est dimanche et lundi.
Exactement, c'est dimanche et lundi, toute la journée, de 10h à 18h, donc on a vraiment toute la journée pour se rencontrer. Et vous avez raison, c'est vraiment un public extrêmement large qu'on souhaite accueillir dimanche à lundi. C'est vraiment pas un événement dédié uniquement aux personnes qui sont dans la restauration, mais aussi aux gens qui se posent la question, qui sont curieux ou qui ont envie d'en savoir plus, pas forcément pour eux, mais pour quelqu'un de la famille, un ami. Ça peut être des très jeunes aussi qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle, qui n'ont pas d'idée et qui ont envie d'en savoir plus.
C'est très important de le rappeler, car en réalité, la restauration peut être un premier pas, j'imagine, par la contiguïté avec des métiers de l'accueil, par exemple, ou de la vente, pour basculer ensuite, comme vous le permettez, j'imagine, au sein de Disney, sur d'autres métiers.
Ah oui, complètement. Et là, aujourd'hui, enfin, dimanche et lundi, on va parler des métiers de la restauration. En revanche, on va aussi beaucoup parler de mobilité interne, de formation, de reconversion. Et ça arrive tous les jours à Disneyland Paris, des personnes qui viennent du métier de l'accueil ou des personnes qui viennent des attractions qui ont envie d'aller dans la restauration et inversement. Et ça, c'est possible tous les jours à Disneyland Paris, on en voit.
Est-ce qu'il faut s'inscrire ?
Alors non, non, faut pas s'inscrire. Les gens viennent. Il y aura un pass sanitaire vaccinal évidemment qu'on demandera, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire. En revanche, s'il y a des personnes qui ont envie de passer des entretiens, parce que il y aura aussi toute l'équipe recrutement qui sera présente. Si des personnes, on a plein des centaines de postes ouverts aujourd'hui dans la restauration, en CDD, en CDI. Si des personnes ont envie de passer des entretiens et de rencontrer ou des opérationnels ou des recruteurs pour avoir ensuite un job à la clé, là, il faudra s'inscrire et tout est sur notre site internet.
Et on note en tout cas ces dates, donc dimanche et lundi prochain, 13 et 14 février, les journées des métiers de la restauration à Disneyland Paris. Merci beaucoup Cécile Balta, DRH Disneyland Paris, d'avoir été avec nous ce matin sur cette radio. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci et à très bientôt. Merci à vous également, Jérôme Lavernier. À demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi.
À demain, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h24 sur Sud Radio. Aujourd'hui, on souhaite une très bonne fête à celle qui s'appelle Apolline. Et puis, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 9 février, date notamment de l'invention du livre de poche. Bah oui, plus petit et surtout moins cher. Il avait fait son apparition en France le 9 février 1953. Invention que l'on doit à la librairie Hachette. Elle est pas mal de musique aussi dans les anniversaires du jour, à commencer par un rappeur, Kool Shen, du groupe NTM. Kool Shen qui a 56 ans aujourd'hui.
C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils.
Kool Shen, pionnier du rap français à la fin des années 80 avec Joystar au sein de la formation NTM, pionnier avec un autre groupe, en l'occurrence marseillais, le groupe Dayam, bien sûr. Allez, nous quittons le côté brut du rap pour souhaiter un bon anniversaire, cette fois-ci à Gérard Lenormand qui fête, lui, ses 77 ans. Et quelle est jolie, la fille de paille, 1968, Gérard Lenormand, qu'il a écrit pour une certaine femme qu'on connaît tous, hein, en l'occurrence, puisque cette chanson, elle a été écrite à l'époque pour Brigitte Bardot. Bah oui, il était visiblement un peu tombé amoureux de la chanteuse, en tout cas, à l'époque, avec cette fille de paille, donc, qu'il avait rencontrée à ce moment-là, c'était au Club Med. Il chantait là-bas. Voilà, vous savez tout. Gérard Lenormand, en tout cas, on peut rajouter qu'il est de retour avec son premier album original depuis 21 ans, Le Goût du Bonheur. C'est le titre de cet album dans lequel on trouve notamment deux chansons écrites par Vianney. Vianney qui fait partie de cette nouvelle génération de la chanson française. Et une nouvelle génération avec notamment Marina Kaye, un peu plus jeune, elle, qui célèbre aujourd'hui son 24e anniversaire. Marina Kaye qui avait remporté il y a 11 ans déjà la France, un incroyable talent. Et elle a prouvé son talent ces dernières années avec pas mal de tubes, notamment Homeless, qu'elle était venue nous interpréter en acoustique sur Sud Radio, souvenez-vous, c'était dans le loft. La très belle voix de Marina Kaye, 24 ans aujourd'hui pour la chanteuse originaire de Marseille qui a connu un succès énorme, non seulement en France mais aussi dans le reste du monde. L'avenir lui appartient en tout cas. Les 6h27 sur Sud Radio, le petit matin revient dans un instant avec à suivre les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier, la météo du jour plutôt agréable avec Rémi André, sans oublier les infos et puis la vie en vrai. 0826 300 300, appelez-nous, vous êtes les bienvenus bien sûr comme toujours à l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Et c'est le quintet tout de suite avec Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et aujourd'hui on file du côté de l'hippodrome de Vincennes.
Avec le prix de l'Ille-et-Vilaine proposé pour les paris à la carte, 2100 mètres, 16 concurrents. Le 3 Eva de Guérinière sera donc ma base devant le 2 Excel d'Amour, 4 Fakir de Mahé, 7 Europa de Chenu, 15 Écho de l'Arrêt, 5 Frégate Méloise, 14 Vicky Laxmi et 9 Foxtrot Noblesse. 3, 2, 4, 7, 15, 5, 14 et 9. Pour ma sélection du jour à Marseille-Vivaux en Réunion 4, course 3, je vous conseille le 5 Winman.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier, vos préférés à retrouver comme toujours sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
La météo, c'est du ciel bleu qui nous attend.
Oui, sur une grande partie du pays. Alors, on a bien encore de la grisaille ce matin, depuis la Bretagne jusqu'au bassin parisien, les Ardennes. Mais cette grisaille, ces brouillards matinaux devraient se dissiper en grande partie. Nous avons également des entrées maritimes sur le Roussillon actuellement, c'est-à-dire que le vent marin va se remettre à souffler aujourd'hui sur les bords de la Méditerranée. Ça se prolonge avec un petit peu de vent d'autant. Et bien là, près de la Méditerranée, la grisaille pourrait persister par endroits. Mais ensuite, sur le reste du pays, c'est le soleil qui va dominer. Et avec lui, les températures vont remonter. Elles en ont bien besoin. Elles sont un petit peu fraîches. Ce matin, eh bien, il fera de façon générale 8 à 13 degrés au nord, jusqu'à 18 degrés au sud, 19 degrés possibles dans le sud-ouest au pied des Pyrénées.
Merci beaucoup Rémi André. Et je vous souhaite un très bon réveil avec Sud Radio. Un grand merci pour votre fidélité. Il est 6h30. Sud Radio.
Parlons vrai.
Nous sommes le mercredi 9 février. Le journal nous est présenté par Mathieu Bélissario. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous. Dans ce journal, on évoquera la crise ukrainienne avec la fin de la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui souhaite à tout prix éviter une guerre entre Moscou et Kiev. Le feu vert de l'Assemblée nationale pour faciliter les adoptions en France. On verra dans le détail quels sont les changements apportés par ce texte définitivement adopté au Parlement. Et puis coup d'envoi aujourd'hui du premier sommet international dédié à l'océan. Ça se passe à Brest avec beaucoup d'enjeux, vous l'entendrez. La crise ukrainienne, après avoir rencontré Vladimir Poutine et le président ukrainien, Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français qui multiplie les discussions et les échanges pour garantir la paix en Europe avec plusieurs objectifs qu'il a lui-même détaillés hier soir. Écoutez.
Le premier, éviter la guerre. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor et nous considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver. La deuxième chose, c'est consolider et défendre à chaque instant l'unité des Européens et des Alliés. La troisième, c'est défendre les principes qui ont fait notre Europe durant ces 30 dernières années. Et en particulier, le respect de la souveraineté de tous les États, de l'intégrité territoriale, du respect de nos valeurs, telles que nos chartes, l'ont prévu.
Emmanuel Macron qui précise que le dialogue va se poursuivre dans les prochains jours. Les conseillers français, allemands, ukrainiens et russes se réuniront d'ailleurs demain à Berlin. Au chapitre judiciaire, il va prendre la parole au procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam sera interrogé aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Principal accusé, seul membre encore en vie des commandos, il devra s'expliquer pour la première fois sur le fond du dossier. La cour va notamment s'intéresser sur son basculement dans la radicalité. Claude Guéant va sortir de prison. Aujourd'hui, l'ancien ministre de l'Intérieur bénéficie d'une libération conditionnelle sans bracelet électronique. Il était incarcéré depuis la mi-décembre après sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide du temps où il travaillait place Beauvau. Des militants anti-pass, anti-vax ou encore des gilets jaunes tous s'unissent pour former un convoi de la liberté, un mouvement pour protester contre les restrictions sanitaires. Des convois qui devraient s'élancer aujourd'hui depuis plusieurs villes de France comme Nice, Perpignan ou encore Bayonne. Les participants sont invités à rejoindre Paris pour bloquer la capitale en fin de semaine avant d'aller lundi à Bruxelles en Belgique pour un grand rassemblement européen. L'Assemblée nationale ouvre la voie à un assouplissement des procédures d'adoption en France. Les députés ont en effet voté hier soir la proposition de loi de la députée Monique Limon qui remonte à mi-2020 et qui s'inscrit dans une série de marqueurs sociétaux en cette fin de quinquennat. Alors, quelles sont les mesures phares de ce texte ? Écoutez Monique Limon, députée LREM de l'Isère.
On abaisse l'âge minimale pour les couples et on réduit de 2 à 1 an la durée minimale requise à une communauté de vie. On étend aussi à titre dérogatoire les possibilités d'adoption plénière jusqu'à 21 ans parce qu'on s'est aperçu que ça voulait dire vraiment beaucoup de choses pour certains enfants, pour certaines familles, de pouvoir adopter même tardivement. Une autre mesure vraiment importante, c'est qu'on prohibe toute adoption intrafamiliale qui pourrait conduire à une confusion des lignes généalogiques entre ascendants et descendants. Tout ça, ça se passe devant le juge, hein. C'est pas décidé comme ça, bien évidemment, mais c'est important de le marquer. Voilà en gros les grandes lignes de ce texte de loi.
À noter que ce texte instaure également un renforcement du statut des pupilles d'État, c'est-à-dire les enfants mineurs qui ont perdu tout lien avec leurs parents, leur famille. Top départ pour le One Ocean Summit à Brest, un sommet organisé à l'initiative du gouvernement français qui réunira à partir d'aujourd'hui chefs d'État, scientifiques, différentes ONG et des acteurs du monde économique. L'objectif est de renforcer la coopération internationale pour la protection des océans. Mais alors pourquoi ce sommet est-il aussi important? Écoutez la réponse de Romain Troublet, directeur général de la Fondation Tara Océan. Il est l'un des ambassadeurs de ce sommet.
Ce genre de sommet est assez rare finalement, enfin c'est une réunion avec une quarantaine de chefs d'État sur ces enjeux de l'océan transversaux, c'est-à-dire de la pollution plastique jusqu'à la surpêche en passant par l'exploitation minière ou les enjeux climatiques ou de biodiversité, donc c'est très rare. En fait on parle très souvent de ces enjeux océans dans plein d'hémicycles, de forums internationaux, très souvent sur le plan technique et sur le plan réglementaire, mais très peu sur le plan politique, et c'est assez rare finalement d'avoir des chefs d'État qui se penchent sur la question à plusieurs et qui se posent des questions pour essayer de améliorer la situation, prendre des décisions collectives. Elles ne sont pas prises à Brest, et aux décisions collectives, mais on peut lancer ici à Brest une dynamique internationale sur cet enjeu qu'est l'océan dans sa globalité.
À propos recueilli par Boris Karlamov, on passe au sport. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, c'est bien parti en snowcross pour les 4 Françaises en lice qualifiées pour les 8e de finale. Et puis un mot de foot avec Monaco qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 2-0 hier soir face à Amiens. Suite des quarts de finale ce soir, Bergerac-Versailles à 18h30 et Nice-Marseille à 21h15. Voilà pour l'actualité. Très belle matinée sur Sud Radio.
Et merci à vous Mathieu Bélissario.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Bah oui, très bonne journée à tous sur Sud Radio. Bien entendu, on débute cette journée ensemble. Journée qui promet d'être plutôt ensoleillée, comme nous disait Rémi André. Va falloir en profiter si vous avez l'occasion, en tout cas, bien sûr, dans quelques minutes. Cécile de Minibus et Patrick Roger, nos rayons de soleil à nous, seront là à l'antenne sur Sud Radio pour continuer cette matinée jusqu'à 10h. D'ici là, pas mal de choses au programme. Alors, pour le coup, des nouvelles un peu plus moroses, en l'occurrence. Dans Curieux comme Rémi, on parlera de la disparition des insectes. Oui, selon certains chercheurs, eh bien, ils pourraient avoir disparu de la surface de la Terre d'ici 100 ans. Et puis dans Hashtag, on en parle sur les réseaux sociaux. Cette vidéo très violente qui fait le tour des réseaux sociaux, justement, elle montre un joueur de foot, un international français, en train de taper l'un de ses chats. Ça fait beaucoup réagir. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, c'est La Vie en Vrai sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
Et je vous rappelle le numéro, d'ailleurs j'en profite pour nous joindre sur Sud Radio et être à l'antenne, 0826 300 300. Ce matin dans La Vie en Vrai, on reçoit le cofondateur de BC Compost. Bonjour Paco Mbecero.
Bonjour Benjamin.
Et bienvenue sur Sud Radio. Alors BC Compost, c'est une entreprise qui fait un peu dans la gestion de biodéchets, hein. C'est ça l'idée en gros.
Exactement, BC Compost c'est un service d'accompagnement, de sensibilisation et de collecte zéro carbone pour valoriser localement les biodéchets des professionnels.
BC Compost, BC parce qu'il y a de la bicyclette notamment, il y a du vélo du côté de chez vous, et Compost parce qu'on en fait du compost aussi. Expliquez-nous un petit peu tout ça, comment ça marche concrètement.
Concrètement, en fait, toutes les semaines, on va chercher les biodéchets, on collecte les biodéchets des professionnels, donc cafés, restaurants, hôtels, les bureaux d'entreprise aussi, les écoles, les crèches, donc à vélo, avec des carrioles électriques. Sur Bordeaux, on les massifie pour les recycler localement en un compost 100% naturel. Ce compost, il est redonné aux agriculteurs et aux maraîchers de la région, finalement, qui font pousser les fruits et légumes saison, qui permettent de nourrir, finalement, nous, les Bordelais, et les citadins directement, qui vont manger dans les cafés et restaurants de la ville.
Quand est-ce que vous l'avez cofondé, justement, cette entreprise BC Compost ?
On a cofondé donc l'entreprise avec Terence, mon associé, en octobre 2020. C'est les premiers tests et on a créé l'entreprise officiellement en mars 2021. Donc c'était moins d'un an.
Donc c'est tout récent. On arrive déjà à avoir un premier bilan, à savoir un petit peu justement d'avoir un petit peu le retour du terrain, savoir comment ça se passe, si ça prend finalement.
Exactement. En fait, ça a pris dès le début. Dès le début, on est allé dans la rue, on est allé au contact des clients. Et dès la première semaine, on avait notre premier client. Aujourd'hui, on a plus de 90 clients, hôtellerie, restauration, et les écoles commencent à prendre. Cette partie sensibilisation dans les écoles est très importante. Et aujourd'hui, on collecte plus de 5 tonnes de biodéchets par semaine, donc en vélo, et ça, sans émission de CO2.
C'est quoi les futurs objectifs que vous avez? J'imagine avoir de plus en plus peut-être d'établissements scolaires en partenariat, de plus en plus d'hôtels, de restaurants, de bureaux d'entreprise, vous le disiez. Il y a d'autres initiatives aussi que vous voulez intégrer dans BC Compost?
Exactement, donc c'est l'idée de cette année 2022, c'est de faire x3 sur la métropole bordelaise. Ensuite, c'est de créer des partenaires pour dupliquer le modèle, parce qu'en fait, on a les mêmes problèmes à Bordeaux, mais on a les mêmes problèmes partout dans toutes les métropoles. Aujourd'hui, il y a des lois qui disent qu'en 2023, la GEC dit qu'en 2023, les producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets devront valoriser ces biodéchets. Ouais. Donc finalement, tout est en train d'évoluer, mais on a un côté sensibilisation assez important, et sur la partie festival événementiel, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Bien sûr. Merci en tout cas, Pacom Becerro, de nous avoir présenté donc BC Compost du côté de Bordeaux. Je donne le site, c'est tout simple, bccompost.fr pour ceux que ça intéresse en tout cas. Merci à vous, Pacom, et je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, Benjamin. Bonne journée à vous.
Et à une prochaine fois en tout cas, 6h40 sur Sud Radio. Pour l'heure, c'est le moment de retrouver Rémi André.
Sud Radio, curieux comme Rémi. Rémi André.
Et oui, avec curieux comme Rémi et comme cette disparition des insectes, une catastrophe silencieuse, oui, car les chercheurs sont inquiets. Selon eux, les insectes pourraient avoir disparu, je vous le disais, de la surface de la Terre d'ici 100 ans. Rémi, déjà, quels sont les indices visibles qui témoignent de cette inquiétude?
Alors écoutez, je ne parle pas pour vous, mais les personnes de plus de 40 ans se souviennent des pare-brises phares et calandres de voitures constellées de cadavres d'insectes. La propreté des voitures actuelles est le signe d'une disparition massive d'insectes qui doit nous alarmer.
Mais alors c'est alarmant à ce point, Rémi ?
Oui, au point que la 6e extinction de masse décime actuellement les espèces vivantes à un rythme inédit, 100 à 1000 fois plus rapide que ce qu'il était avant l'avènement de notre espèce. Parmi les animaux en danger d'extinction, on retrouve des espèces emblématiques comme par exemple le guépard, la girafe ou l'orang-outan. On pense plus volontiers aux vertébrés et plus particulièrement aux mammifères, mais il est une autre catégorie du vivant, souvent oubliée, qui disparaît aujourd'hui en silence, les insectes.
Et alors quelles sont les preuves de cela, Rémi ?
Alors, un rapport confirme le déclin généralisé des populations d'insectes à travers le monde. Ce rapport, publié dans la revue Biological Conservation, estime que selon les chercheurs qui ont compilé 73 études menées sur 40 ans, plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin dans le monde et un tiers des espèces sont en voie de disparition.
Et c'est vraiment énorme ça comme chiffre quand même.
Oui, le constat est accablant. 41% des espèces d'insectes voient leur population décliner de plus de 30%, dont 31% sont aujourd'hui menacés d'extinction. Un chiffre qui s'élève à 26% pour les oiseaux et à 15% pour les mammifères terrestres. Ce qui équivaut, selon eux, au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Les 73 études scientifiques passées en revue concernent tout particulièrement les espèces d'insectes européennes et nord-américaines où davantage de suivis réguliers ont été réalisés. Mais le pire, une des études révèle que 98% des insectes ont disparu à Porto Rico depuis 35 ans.
98%, c'est incroyable. Alors c'est très embêtant, Rémi, car les insectes ont un rôle majeur dans la chaîne alimentaire.
Exactement, mais pas que, car les insectes, s'ils ont toujours un peu mauvaise presse, apparaissent pourtant indispensables à la pollinisation des plantes. Ils savent aussi recycler les nutriments et ils servent de nourriture de base à un certain nombre d'autres animaux comme les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, comme les grenouilles, dont on parlera bientôt, ou encore les poissons.
Et je suppose qu'on connaît en tout cas la raison déjà de ce déclin.
Alors, on a tendance à accuser tout de suite le changement climatique. Pourtant, selon le rapport, le réchauffement climatique est loin de constituer la plus grande menace pour les insectes du monde. La principale cause de leur déclin reste la destruction des habitats due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation, la pollution aux pesticides et aux engrais, la prolifération des espèces invasives où les agents pathogènes n'arrivent qu'ensuite. En conclusion de ce rapport, les chercheurs alertent les autorités en disant qu'il est urgent de réduire notre usage de pesticides pour ralentir la tendance actuelle et d'améliorer le traitement des eaux usées.
Et ben voilà pour les objectifs qui sont donc posés. Merci à vous Rémi André. Allez, 6h43 sur Sud Radio. Dans quelques instants, on accueillera Cécile Dominibus et Patrick Roger. Mais avant cela, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui fait le tour justement de ces réseaux sociaux. Vidéo très violente où l'on voit un international, un footballeur international tricolore en train de frapper, de taper son chat. Oui, l'un de ses chats. Ça fait forcément beaucoup réagir. On y revient dans un instant sur Sud Radio. Restez bien avec nous. À tout de suite.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h46, tout de suite c'est le rappel des titres sur Sud Radio. Éviter une guerre en Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne affichent leur unité après le marathon diplomatique d'Emmanuel Macron à Moscou puis à Kiev. Il assure, Emmanuel Macron, voir des solutions concrètes à la crise liée à l'Ukraine entre Russes et Occidentaux. Le chancelier allemand recevait hier soir les présidents français et polonais. Le président Macron qui précise quant à lui ses intentions sur sa future candidature. Il va falloir y songer, a ironisé le chef de l'État interrogé sur le sujet par des journalistes dans l'avion présidentiel. Et puis le convoi de la liberté s'élance aujourd'hui. Des voitures, des camions qui vont partir de Bayonne, de Nice ou encore de Strasbourg, direction Paris, puis Bruxelles, mouvement inspiré du Canada où la capitale Ottawa a déclaré l'état d'urgence paralysé par des centaines de camionneurs opposés aux mesures sanitaires. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, Cécile Dominibus et Patrick Roger, mais d'abord, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux. Et je vous le disais, c'est une vidéo qui fait justement le tour de ces réseaux sociaux et qui provoque un véritable tollé. Dessus, un homme maltraite l'un de ses chats et lui assène notamment des coups à plusieurs reprises. Des coups de pied, des tapes sur la truffe, des rires qu'on entend aussi en fond. Ces images, elles sont d'une rare violence. La particularité de ces images, c'est que l'individu qui s'en prend à son chat, je vous le disais, eh bien, il est connu, il est très connu des passionnés de football, puisqu'il s'agit de Kurt Zouma, le défenseur central de West Ham, qui compte surtout 11 sélections en équipe de France, dont la dernière tout récemment, c'était en novembre dernier. Depuis la diffusion de cette vidéo, on ne compte plus les messages de haine et de révolte sur les réseaux sociaux à son encontre. L'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux a notamment réclamé sa radiation de l'équipe de France. En attendant, eh bien, sachez-le, de manière tout à fait surprenante, le joueur était sur le terrain hier soir. Oui, il a joué avec son club anglais qui affrontait Watford. Et les supporters de West Ham ne l'ont pas raté puisqu'il a été hué à chaque fois qu'il a touché le ballon. Écoutez. La bronca, et c'est plutôt surprenant en tout cas, c'est vrai, de la part de son club de l'avoir laissé jouer ce match, d'autant que West Ham avait annoncé vouloir traiter cette affaire sérieusement en interne. Alors le principal concerné, Kurt Zouma, s'est rapidement excusé. Je le cite, je veux dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer que nos deux chats vont parfaitement bien, ils sont en bonne santé, ils sont aimés et chéris, dit-il, par toute notre famille. Et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus. Voilà pour ce message en tout cas de Kurt Zouma, qui risque gros hein, néanmoins, car les violences contre les animaux sont très sévèrement punies en Angleterre, avec une peine de prison allant de 12 mois à 5 ans. Ironie de l'histoire, le footballeur est l'ambassadeur d'une association qui a notamment financé la rénovation d'un enclos pour les félins. Voilà, allez, 6h49 sur Sud Radio, ils sont là. Tout de suite on accueille Cécile Demilibus et Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Bonjour et bienvenue à vous deux.
Bonjour Benjamin, bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Dois-je vous dire que je suis choquée par cette vidéo?
Bah évidemment, vous...
Terriblement choquée.
Défenseur des chats.
Non, défenseur,
En règle générale, on tape sur...
personne.
Non mais c'est voilà. Vrai que quand vous regardez cette vidéo, vous êtes choqué, vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi il s'acharne en fait comme ça à lui donner en
pourquoi
fait...
Pourquoi il le fait, pourquoi il est filmé, pourquoi on le met sur TikTok,
alors filmé et puis ça sourit et ça rigole derrière quoi.
C'est un bel exemple hein, pour les jeunes.
Non mais ce qui est assez incroyable c'est que comme vous l'avez dit Benjamin, il avait financé donc une action plutôt positive pour les chats, pour les félins, et qu'en même temps, il en a plusieurs chez lui et puis il commence à les taper. Bon, et ce qui est assez incroyable, c'est que cette vidéo ce qui est rare d'ailleurs, ce qu'a annoncé une association, c'est que cette vidéo a été mise, qui est en interne dans le clan familial, ait été postée et partagée sur les vidéos. Bah oui, c'était sur TikTok.
Ouais.
Ah bah voilà, vous voyez, TikTok. Hein
ouais. Sur bon. Snapchat, ouais, je crois.
Snapchat.
Ou sur la même chose. En fait, c'est quand même. Ça relance quand même les réseaux sociaux de dire que quand on montre des vidéos comme ça, elles devraient être supprimées immédiatement.
On montre tout sur les réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui. Tout. Donc, il y a de bonnes choses parce que ça permet parfois de dénoncer certaines situations. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qui devraient rester, en fait.
Faire le tri.
Bah oui, il faudrait un petit peu de tri. Allez, ce matin, on va pas disserter pendant 2 heures sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il y a beaucoup de choses effectivement à dire, bien sûr, que ce soit les adultes comme les enfants, le temps passé sur ces réseaux sociaux. Vous avez vu aussi d'ailleurs qu'il y a des menaces autour de Facebook. Je pense qu'il y a une partie de poker, c'est du poker menteur un petit peu de la part de Zuckerberg sur « je vais vous fermer, je vais vous couper en fait les robinets ». Bon, cela dit...
C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois.
C'est pas son intérêt,
cela dit, il y aurait besoin quand même de taxer en fait un peu plus ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux en tout cas qui sont beaucoup utilisé pour énormément de mouvements, notamment le fameux convoi dit de la liberté. Nous allons en parler ce matin, tout à l'heure d'ailleurs, dans le journal de 7h, parce qu'il part de Bayonne, par exemple, aujourd'hui, et d'autres endroits. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, sur Facebook, ce mouvement a déjà rassemblé énormément de personnes, 270 000 personnes. Nous l'évoquerons ce matin.
Et ainsi, dans notre question du jour.
Voilà, et dans notre question du jour. Est-ce que vous voyez des similitudes
entre le convoi dit de la liberté et les gilets jaunes, vous dites oui à 75%.
Voilà, c'est ça. Nous en parlerons et l'invité tout à l'heure, la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, parce que c'est assez incroyable, mais la fonction publique est entre deux eaux. D'un côté, il y a une menace de grève pour la mi-mars, et puis de l'autre, on recrute quasiment à tour de bras dans la fonction publique, alors que j'avais cru comprendre qu'il fallait réduire le nombre de fonctionnaires. On a du mal à suivre. Elle nous en parlera et je l'interrogerai à ce sujet tout à l'heure. Donc à 8h15, petit mot
Amélie
au passage.
Amélie de Montchalin.
Petit mot au passage aussi. On est derrière l'équipe de Bergerac, hein, qui joue son quart de finale tout à l'heure contre Versailles. Alors vous allez me dire, c'est deux petits poussets, donc on est derrière les deux. Allez, moi je suis pour Bergerac, Cécile est pour Versailles.
Bon, d'accord, voilà. C'est réglé.
Allez, c'est réglé. Et Benjamin est l'arbitre.
Allez, okay, très bien. Allez, Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et parce qu'on aime les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales, Franck Poncet est avec nous. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Emova. C'est un groupe finalement qui regroupe 5 marques, dont une en 100% digitale. Vous allez nous rappeler les marques.
Oui, absolument. Emova Group est plus connu pour ses marques. Nous sommes le leader en France des ventes de fleurs et de plants de l'intérieur. Et nous avons des marques et des magasins sous des enseignes Monceau-Fleurs, enseigne historique avec le premier magasin créé en 1965, mais également Happy, Cœur de Fleurs, Au Nom de la Rose, et une marque 100% digitale qui s'appelle Blooms et qui propose des abonnements pour des bouquets avec des fleurs françaises et vous constituez ensuite votre bouquet à la maison.
On va revenir justement sur le fondateur de Monceau Fleurs qui a totalement, finalement, démocratisé la fleur qui était à l'époque un produit de luxe.
Ah oui, c'était un produit presque de luxe, en tout cas pas toujours très accessible. Oui. Et le fondateur, qui était un fleuriste du Sud, est monté à la capitale pour proposer des fleurs aux Parisiens et il a inventé finalement le libre service de la fleur avec des tiges, des bottes et des bouquets. Donc l'innovation majeure de Monceau Fleurs.
Et on lui doit, bien entendu. Le marché de la fleur et des plantes est un marché extrêmement résilient. On l'a vu aussi face à la crise, puisque les Français avaient très envie de fleurs pendant le confinement.
Oui, absolument. C'est un marché historiquement résilient qui est en croissance et qui est même un peu tendance et on a constaté des changements d'habitude de consommation pendant le confinement puisqu'on pense souvent à offrir des fleurs pour faire plaisir et on constate de plus en plus que c'est également fleurs et plantes pour se faire plaisir, absolument.
Alors vous luttez aussi, puisque vous travaillez dans ce sens, comme beaucoup d'entreprises, contre le gaspillage.
Oui, contre le gaspillage végétal, avec plusieurs partenariats et initiatives. La première, c'est une association avec l'application Too Good To Go. Oui. Donc, quand un bouquet est plus très frais, mais qu'il a encore quelques jours de vie et qu'on le retire de nos étalages, on le propose sur l'application Too Good To Go à un prix cassé. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est le recyclage végétal et l'économie circulaire, puisqu'on trie nos déchets dans les magasins et on sépare les déchets végétaux qui sont ensuite récupérés par une entreprise qui s'appelle V+, et qui le transforme en végétaux, en terreau, et nous revendons dans nos magasins ces terreaux issus de nos déchets végétaux. Et enfin, nous travaillons avec quelques magasins qui s'appellent Nous Épicerie Anti-Gaspi. C'est un peu le même fonctionnement que les légumes moches. Quand un bouquet n'est pas complètement idéal pour nous, on le vend aux épiceries Nous Épicerie Anti-Gaspi.
Alors, on sait que la production des fleurs en Hollande est incontournable, hein, malheureusement. On peut quand même se targuer en France de produire la fleur qui est très à la mode, et ben c'est la pivoine.
Ah, c'est la pivoine. Ouais. Et chez Emova Group et dans toutes nos enseignes, toutes les fleurs de saison françaises sont bien évidemment présentes sur nos étals. Alors en ce moment, c'est le mimosa, c'est la tulipe, ce sont les anémones, mais on peut parler effectivement des sapins, on peut parler des pivoines, des fleurs du sud. Et effectivement, dès que les fleurs françaises de saison sont disponibles, vous les retrouvez dans tous nos magasins.
Est-ce qu'il faut faire un effort justement sur la filière agricole, l'horticulture? Est-ce que le gouvernement devrait, comme en Hollande, développer cette filière en France?
Ah oui, je pense qu'il y a énormément d'opportunités à développer cette filière qui a été un petit peu historiquement délaissée, malheureusement. Si on parle de la Hollande, c'est une véritable économie de marché. Hein. D'ailleurs, la plaque tournante qui est la Hollande s'appelle Royal Flora Hollande. C'était une économie de marché. Mais on voit de plus en plus, et nous on aide justement à cette relocalisation de la production française. Et on négocie d'ailleurs des contrats de production à long terme pour effectivement soutenir la filière française.
Eh bien, merci beaucoup Franck Poncet d'avoir été avec nous, directeur général d'Emova. Et c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. On est ravis de vous retrouver. On vous souhaite un bon réveil.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.